Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 13. Prévenue par l'agent Marest, qu'il eut à vouloir bien attendre le retour du lieutenant de police, Roger avait passé par toutes les phases de l'impatience. Picard, qui du coin de son œil observait chacun de ses mouvements, avait pu se rendre un compte à peu près exact de ce qui se passait dans l'esprit de son jeune maître. Il connaissait le chevalier sur le bout du doigt. Et dans sa conviction, Roger, tout en affectant de paraître calme, devait au contraire bouillir intérieurement. Le vieux serviteur n'était pas absolument tranquille sur le résultat de l'entretien qui allait avoir lieu entre l'oncle, qu'il soupçonnait de vouloir être inébranlable dans sa volonté de briser l'obstination du chevalier, et le neveu dont il connaissait les intentions formelles. Picard était, on s'en souvient, parti en guerre pour cette équipée, bravement, irrésistiblement subjuguée qu'il avait été par Henriette. La jeune fille l'avait littéralement enthousiasmé par sa vertu, son esprit droit, son cœur si tendre et si désintéressé. Il était tout prêt à se dévouer pour son jeune maître et pour elle. Mais connaissant l'orgueil et l'implacable volonté du comte de Lignières, il prévoyait de terribles orages. En ce moment, il se fit un grand bruit d'aller et venu dans la pièce qui précédait l'antichambre. « C'est sans doute monsieur le comte qui rentre, » hasarda Picard, dont le visage pâlit un peu. Néanmoins, le vieux serviteur était trop loin de soupçonner la fureur qui animait le lieutenant de police pour ne pas retrouver bientôt toute son assurance. C'était en effet monsieur de Lignières. La porte du cabinet s'était ouverte et le comte parut sur le seuil. Roger fit un pas au-devant de lui. Mais il s'arrêta, foudroyé par le regard plein d'éclairs que lui lança son oncle. Le chevalier, après un premier moment d'hésitation, s'était retrouvé ardent, fiévreux, impatient d'en finir, comme il l'était en se rendant à l'hôtel de Lignières. « Monsieur le comte, » dit-il d'une voix brève et saccadée, « j'étais venu ici décidé à vous faire part de la résolution que j'avais prise, résolution irrévocable, croyez-le bien. Un désir de votre part m'a fait vous attendre. « Un ordre, monsieur !» prononça le magistrat avec une intonation froide qui glaça le sang dans les veines de Picard. Il connaissait son maître et il se rendait bien compte que le comte de Lignières imposait en ce moment une barrière à des emportements furibonds. Son regard alla chercher celui du chevalier. De son côté, Roger avait bondi sous l'aiguillon du mot injurieux qu'on lui adressait. « Un ordre ? » fit-il entre ses dents serrées. Et relevant la tête, il riposta. « Je suis venu ici, monsieur le comte, avec la volonté ferme d'avoir avec vous une dernière explication. » Monsieur de Lignières le toisa d'un air d'autorité. « Une explication, » fit-il du bout des lèvres. « Il ne me convient pas d'accéder à votre désir. Je vous refuse le droit de m'interroger. Il vous a plu de rompre avec toutes les traditions de votre famille. Il ne me plaît pas à moi d'écouter plus longtemps des paroles qui accusent, de votre part, une intention de révolte. « Cependant, fit le chevalier, vous m'avez fait retenir ici. Pour vous enjoindre une dernière fois d'avoir à vous soumettre à la volonté du roi, notre maître, votre attitude me dit clairement que vous refusez de vous y conformer. » Roger, un instant décontenancé par le ton sévère du comte, s'était promptement remis. À la question qui lui était posée, il répondit d'une façon énergique. « Non, s'écria-t-il d'une voix forte, non. « Jamais je ne consentirai à accepter qu'on dispose de mon cœur, de mon bonheur enfin. »« Vous oubliez, monsieur, » riposta monsieur de Lignières, « que votre souverain aurait, s'il le voulait, le droit de disposer de votre vie. »« Qu'il la prenne donc, » s'exclama le chevalier avec véhémence. « Qu'il la prenne tout de suite, plutôt que de me condamner à parjurer mon serment. »« Qu'il me débarrasse d'une existence qu'il voudrait condamner au malheur éternel. » mais qu'il ne m'oblige pas à sacrifier mon amour, qu'il ne me contraigne pas à ce que je considère comme une infamie, à ce qui serait de ma part une lâcheté. Il peut, je le sais, selon son bon plaisir, m'envoyer à la mort. Soit, je suis prêt, mais j'aurai du moins, jusqu'à mon dernier souffle, conservé mon amour, pur de toute défaillance, à celle qui deviendra ma veuve. Oui, ma veuve, car devant Dieu, je l'ai prise pour épouse. » Le ton résolu dont ces paroles, énergiques et émues en même temps, avait été prononcé eût, sans toute autre circonstance, fait impression sur l'esprit du lieutenant de police. Mais dans l'état de fureur où se trouvait le comte, l'exaltation de Roger vint s'émousser contre une froideur glaciale. Pas un muscle de son visage ne trahit l'ombre d'une émotion. Il regarda fixement le chevalier et un imperceptible rictus fit frissonner ses lèvres. Lorsqu'il eut bien laissé son interlocuteur s'exprimer avec la passion et la chaleur qui l'animaient, il se contenta de répondre. « Il ne sera pas dit, monsieur, qu'un de Vaudrey aura subi la mort. Pour une fille. Monsieur, vous avez le droit d'être fou. Mais heureusement, j'ai pris soin que cette folie ne soit pas dangereuse au point de compromettre l'honneur de toute une famille. Que voulez-vous dire ? » interrogea le chevalier avec anxiété. Puis tout son sang lui affluant au cerveau. « Je ne permettrai pas, monsieur le comte, que vous traitiez de fille celle... Quelle autre qualification puis-je donner à celle qui s'est jouée avec une impudeur de courtisane, de votre naïveté, de votre faiblesse ? Je vous répète, monsieur, vous ne sacrifierez pas votre avenir à cette fille. Et j'ai fait le nécessaire pour cela. Vous ? Vous ? J'ai usé de mon droit de chef de famille et de mon pouvoir de magistrat. Cette fille est à la Salpêtrière. » Roger eut un mouvement pour s'élancer. Ses yeux, émergeant des orbites, il rugit un cri de colère et de douleur. Monsieur de Lignières, les bras croisés, le toisait dédaigneusement. Pendant une seconde, le malheureux jeune homme sentit ses idées tourbillonner dans son cerveau. Il était arrivé à l'extrême limite de l'emportement, après laquelle on voit rouge. Tout à coup, il s'arrêta dans son élan. Et comme s'il eût soupçonné qu'on voulait lui faire subir une épreuve, il s'approcha, les mains tendues, frémissantes. Et d'une voix que l'émotion assourdissait. « Ah, vous vous vengez, monsieur le comte, de l'audace que j'ai eue de vous rappeler à des devoirs d'honneur et de dignité. Eh bien, maintenant que vous avez réussi à me faire éprouver la plus cruelle émotion que puisse subir mon cœur, dites-moi que vous ne poursuivrez pas de votre courroux une infortunée. Dites-moi que... Je vous ai dit, » articula froidement le lieutenant de police, « que j'avais envoyé au milieu de ses semblables la créature qui a mérité cette punition infamante. Je vous le répète, monsieur, et cela quelque colère que vous puissiez manifester de nouveau. Cette fille est à la Salpêtrière. Et elle y attendra un châtiment encore plus sévère. » À la déclaration implacable qu'il venait d'entendre, Roger opposa l'exaspération la plus violente. Aveuglé par le désespoir, il n'eut plus conscience ni de ses actes ni de ses paroles. Il eut un éblouissement pendant lequel il vit, comme dans une hallucination, Henriette au milieu des filles perdues et des misérables créatures qu'on interne à la Salpêtrière. Il lui sembla entendre la malheureuse l'appeler à son secours. Les poings fermés, il s'élança pour sortir, en criant au comte, impassible devant ce débordement de rage. « Je la délivrerai. Je l'arracherai de ce lieu infâme où vous avez voulu prostituer sa vertu. Je la sauverai, malgré vous, malgré le roi lui-même. Dussé-je pour cela tout renverser, tout briser, tout broyer devant moi. » Il sortit. Dès qu'il eut franchi le seuil de son cabinet, le lieutenant referma la porte. À la vue de l'égarement qui se lisait sur le visage de son maître, Picard demeura frappé de stupeur. Au moment où il allait interroger le chevalier, deux coups de sonnette violents, précipités, retentirent comme un signal. Aussitôt, par la porte qui communiquait à la salle réservée aux agents de service, parurent un officier et trois exemples. Sans donner à Roger le temps de se reconnaître, les exemples l'avaient entouré de façon à prévenir de sa part toute tentative de fuite. En même temps, l'officier s'avançait, le chapeau à la main, et, exhibant d'une lettre de cachet, arrêtait respectueusement le chevalier de Vaudrey, au nom du roi, pour le conduire à la Bastille. Roger, ni Picard, ne s'étaient attendus à ce coup de théâtre, habilement préparé et mis en scène par le lieutenant de police. Le chevalier, écartant des deux mains les agents qui l'entouraient déjà pour lui faire escorte jusqu'au carrosse, courut à la porte du cabinet de M. de Lignières. Mais il tenta vainement de l'ouvrir. Fou de douleur, indigné de la conduite du comte à son égard, il perdit toute retenue. Dans sa rage impuissante, il criait à son oncle, à travers cette porte, des paroles irritées, remplies de désespoir et de menaces. L'officier vint mettre un terme à cette scène de violence. Il s'approcha du chevalier. Alors, un revirement se fit chez Roger. d'une voix calme et digne. « Je vous suis, monsieur, » dit-il à l'officier. « Permettez-moi seulement de donner quelques ordres à mon domestique. » L'officier et les exemples s'écartèrent, laissant le jeune gentilhomme causer avec celui qu'il savait être l'un des serviteurs du comte de Lignières. En quelques mots, le chevalier le mit au courant de ce qui venait de se passer. Il lui dit l'arrestation d'Henriette. Picard était violemment ému. « À la Salpêtrière ? Cette adorable jeune fille ! À la Salpêtrière ! Et nous, à la Bastille ! C'est odieux ! C'est indigne ! » disait-il. « Mon maître, mon pauvre maître !»« Picard, » ajouta le chevalier, « il faut, entends-tu bien, il faut que tu parviennes jusqu'à elle, que tu la vois, que tu lui parles. »« Je la verrai et je lui parlerai, » répondit résolument Picard. « Il faut qu'elle sache que, prisonnier moi-même, je ne puis en ce moment l'arracher de cet asile infâme où l'a fait enfermer le lieutenant de police. Mais je veux qu'elle sache bien aussi que ma résolution est inébranlable, que je n'aurai jamais d'autre femme, et que libre ou plongée au fond du plus noir cachot de la Bastille, mon cœur, mon âme, ma vie sont tout à elle. « Comptez sur moi, monsieur le chevalier, » répondit Picard d'une voix émue. « Messieurs, » dit alors le chevalier en se tournant vers l'officier, « je suis prêt. » Puis, adressant à Picard un dernier signe de recommandation et d'adieu, il suivit l'officier et les exemples. De la croisée de son cabinet de travail, M. de Lignières vit son neveu monter dans le carrosse qui devait l'emporter à la Bastille. Il attendit que la voiture eût disparu et se dirigea lentement vers le couloir qui conduisait chez la comtesse. En ce moment, la chaise de Mme de Lignières s'arrêtait devant la porte de l'hôtel. Diane en descendit et d'un pas chancelant, elle se dirigea vers l'intérieur de l'hôtel. Les valets se regardaient, vivement impressionnés, à la vue du visage pâle et convulsé de la comtesse. Soutenue par une femme de chambre, Madame de Lignières arriva presque mourante dans son appartement. Le comte de Lignières l'y attendait.